J'aime beaucoup cette traduction de ce texte, surtout en français, parce que là, on dit que Dieu nous donne un avenir fait d'espérance. Il y a d'autres traductions qui veulent dire plein d'espérance, etc. Mais un avenir fait d'espérance, c'est comme le tissu même de ce que Dieu nous donne, c'est l'espérance. C'est sûr et solide. Alors, si vous voulez lire avec moi, mais je vais lire donc un passage de Jérémie 29, à partir de verset 1. Jérémie chapitre 29. En fait, Jérémie envoie une lettre de Jérusalem, le prophète Jérémie, de la part de Dieu. À des responsables du peuple qui subsistaient en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabucodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. Et puis un peu plus loin, on voit « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous. Plantez-y des jardins et mangez-en des productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez bien le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez. Ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, et tel l'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout de 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, de vous assurer un avenir plein d'espérance ou fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai au milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare. Est-ce qu'on peut passer quelques minutes dans la prière? On va prier pour ce temps de partage, mais vous avez peut-être juste des choses à dire au Seigneur de remerciement. Sentez-vous libre de... Alors, j'aimerais parler donc de Jérémie et l'espérance. Et j'espère que quelqu'un va m'apporter un verre d'eau. Hein. Et voilà. C'est...
Excellent.
Alors, le message de Jérémie est imprégné d'espérance. Pourtant, c'était un homme, comme les autres, dans le sens où il a vécu beaucoup d'expériences difficiles, qui, à première vue, empêchaient de notre capacité d'espérer. Des réalités de la vie qui ont tendance à nous enfoncer plutôt dans le désespoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre au sujet de l'espérance par ce prophète qu'on appelle le prophète qui pleure? Considérons d'abord quelques éléments qui luttent contre l'espérance dans sa vie. Il avait de quoi désespérer, Jérémie. D'abord, il vivait dans une époque tourmentée. C'était un temps d'insécurité et de tension politique internationale. L'empire assyrien était tombé en ruine et Jude était menacé par deux puissances mondiales, l'Égypte et Babylone. Au temps de cette lettre, les Juifs étaient en exil à Babylone. Le péché régnait en Juda. L'idolâtrie, l'immoralité et la corruption, même chez les prêtres et les prophètes, ont marqué la société. Il a dû faire face aux faux prophètes qui mentaient au peuple, qui profitaient personnellement de leur rôle de prophète. Est-ce que j'ai besoin de vous énumérer les comparaisons avec notre temps? Non. Si vous vivez dans un bonheur total et tout le monde et tout ce qui se passe dans le monde est pour vous bien, vous êtes en paix, vous avez beaucoup de grâce. Et que vous soyez bénis. Mais je pense qu'on est tous conscients de notre époque tourmentée pour toutes sortes de raisons qu'on n'a pas besoin d'énumérer. Mais, comme Jérémie, nous sommes appelés à espérer. Alors, c'était aussi un prophète rejeté. À cause de son message et de sa vie, il a été persécuté par sa famille et ses voisins. Il a failli être tué par le peuple, les prêtres et les prophètes y compris, pour ses prophéties de jugement. Nous vivons dans une Europe, dans une époque dite post-chrétienne. Le sentiment ambiant est que nous sommes passés par la période chrétienne et ça n'a plus rien à voir avec notre monde moderne. On s'est bien parlé, dans beaucoup de cas, d'une relation personnelle avec Jésus et vous êtes souvent en face d'une incompréhension totale, voire un mépris pour ce genre de pensée. Oser aborder des questions de mœurs, des questions morales, d'un point de vue chrétien, c'est souvent, il y a souvent une réaction assez agressive à ça. On a tué Dieu dans nos pensées et on s'étonne lorsque la société se désintègre ou quand les enfants deviennent violents parce qu'on les a enlevés toute notion d'autorité et de responsabilité absolue. Et puis désespérément, on va donner des cours de morale alors qu'on a rejeté la source de la loi morale. Alors, même dans ce contexte-là, comme Jérémie, on est appelé à espérer. C'était aussi un homme informé Et on ne peut pas accuser Jérémie d'être à côté de la plaque en tout ce qui concerne les affaires sociopolitiques de son temps. Il a prophétisé pendant les règnes des cinq derniers rois de Juda. Il avait une connaissance profonde des affaires politiques, civiques et religieuses de son monde. Sa compréhension des réalités de ce monde a dû le décourager parfois. En plus, il n'avait aucune illusion en ce qui concerne l'homme dans son être le plus profond. C'est par lui-même que Dieu déclare « Le cœur est tortu. Le cœur de l'homme est tortu plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître ?» Jérémie 17, 9. Plus important encore, il était conscient de sa propre humanité, de son propre cœur tortueux, et plus que les autres prophètes. Il exprime ses émotions, il montre ses faiblesses et ses doutes. Il se connaît très bien, conscient de sa propre humanité. En 1954, le premier ministre à l'époque du Royaume-Uni, ce grand homme du XXe siècle, Winston Churchill, a rencontré le jeune évangéliste Billy Graham. 1954, il lui a dit, en fait c'était un entretien prévu pour 5 minutes, 10 minutes. Ça commence comme ça, il dit... « Je suis un vieux homme sans espoir pour ce monde. Quel espoir avez-vous ?» Et puis, l'entretien a duré 40 minutes au lieu de 5. Et Billy Graham a commencé par dire « Monsieur Premier ministre, je suis plein d'espérance pour ce monde. » Et il a expliqué pourquoi. Plus que nous connaissons les limites de l'humanité, plus nous avons raison de désespérer. Vous avez peut-être rencontré des gens qui renoncent à la joie d'avoir des enfants, de plus en plus. C'est un manque d'espérance. Néanmoins, comme au temps de Jérémie, Dieu nous promet un avenir fait d'espérance. Alors, comment a-t-il pu vivre ça, concrétiser ce besoin, par quels moyens? J'ai une formation baptiste, donc j'ai des points. J'ai 3 points. Évidemment, on peut en tirer d'autres, mais voilà. D'abord, la première chose, c'est sa relation avec Dieu. Il avait une relation, une communion de cœur. Jérémie connaissait bien l'amour de Dieu, il y croyait fermement les paroles qu'il a annoncées de la part du Seigneur quand il dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. » Comme nous avons vu, il connaissait bien la méchanceté de le cœur de l'homme. Le fond de son message était la transformation de ce cœur, de notre cœur tortueux, incurable, sans la grâce de Dieu. Par Jérémie, Dieu anticipe et nous indique vers le Nouveau Testament et le concept de la circoncision du cœur. Chapitre 9, « Car toutes les nations sont à circoncises et toute la maison d'Israël est incirconcise du cœur, c'est-à-dire fermée, pas réceptif à l'amour de Dieu. Dans les prophéties et les jugements qu'il a prononcés de la part du Seigneur, il appelle le peuple à mettre du cœur dans leur connaissance de la loi. Autrement dit, l'obéissance, l'engagement personnel entier. Il dit que les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les détenteurs de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et se sont reliés à ceux qui ne sont d'aucune aide. Ils n'avaient pas du cœur dans nos efforts et ça se voit. Persévérance, mais avec du cœur. En mettant l'accent sur le cœur, on ne veut pas dire qu'on rejette nos cerveaux, hein, évidemment. Donc, on va rejeter les arguments que pseudo-intellectuels contre Dieu, contre son existence. Le problème n'est pas là, il est là. C'est le cœur de l'homme qui empêche une vraie connaissance de Dieu. Tôt ou tard, il faut marier compréhension avec relation ou communion, confiance. Alors nous pouvons apprécier les capacités intellectuelles des gens comme Jean-Jacques Rousseau, Sartre, Karl Marx et d'autres. J'ai un livre écrit il y a longtemps par un philosophe, historien anglais, et ça s'appelle Les Intellectuels. Et il raconte l'histoire et il donne des informations sur ces gens-là et d'autres, des grands intellectuels qui sont critiques de Dieu, et ils disent qu'ils étaient très doués, ce qu'ils nous ont donné, des très belles et bonnes choses. Mais quand ils nous commencent à nous dire comment nous devons vivre, ils étaient tous en échec eux-mêmes. Rousseau avec, je sais pas, 14 ans enfant, il a abandonné, il y a plein d'histoires comme ça. Ce n'est pas là où on va trouver notre voie en ce qui concerne le travail du cœur de l'homme. Non, c'est en Jésus qu'on va trouver ça. Pour une vraie communion, il faut un engagement du cœur. Et Jérémie pouvait annoncer l'espérance parce qu'il avait cette relation de confiance avec Dieu. Même s'il n'avait pas toutes les réponses à toutes les questions. C'est pas ça. En lisant le livre de Jérémie, on voit qu'il avait pas mal de difficultés, mais c'est dans sa communion avec Dieu qu'il a finalement pu combattre ses effets corrosifs de sa timidité, son angoisse, sa faiblesse, l'animosité dont il était victime, sa solitude, les malentendus, son échec et son désespoir. Nous avons tous des faiblesses, des manques, mais Dieu peut nous faire sortir de ça, nous soutenir. Les Juifs qui ont entendu la prophétie de Jérémie étaient des prisonniers, des réfugiés, loin de leur pays dévasté. Beaucoup ont perdu leur famille et les amis, des prêtres, des prophètes et d'autres responsables ont été tués dans l'attaque contre Jérusalem. Ils ont perdu. Nous aussi, on avait des questions. Vous avez certainement des questions sans réponse, des inquiétudes. Ils sont réels, on ne peut pas les minimiser. Mais nous aussi, le Seigneur nous dit, je connais, moi, les desseins que j'ai faits à votre sujet. Dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu. Et puis, deuxièmement, son sens de vocation, très important. Il a reçu un appel à être prophète quand il était très jeune. Fils d'un prêtre, il était bien enseigné par la parole de Dieu. Il y a un texte qui dit « Tes paroles se sont trouvées devant moi, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel des armées. » Tout cela contribue à son sens d'avoir être appelé pour un travail, une mission, une tâche. On dit que pour bien comprendre le concept du prophète dans l'Ancien Testament, il faut lire Jérémie. C'est un exemple formidable. Il a beaucoup souffert, il aimait son peuple. C'était un homme émotionnel, on dit, tendu comme la corde d'une guitare. Et comme Jésus, un homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a prophétisé contre la corruption des rois, l'idolâtrie, le péché, etc. Toujours une occupation dangereuse. Et c'est ce sens de vocation, d'appel, d'être envoyé par Dieu pour une mission, une responsabilité qu'il a, je pense, aidé à tenir. Dans notre église en Afrique du Sud, il y a des années, où il y avait une dame qui était prof à l'école, et pendant 35 ans à peu près. Et je me souviens un jour à l'église, elle nous a dit, bon, je prends ma retraite, après 35 ans d'enseignement, je vais pouvoir faire le travail de Dieu. Je ne l'ai pas demandé comme ça, mais je me posais la question, mais qu'as-tu fait pendant 35 ans si ce n'était pas l'œuvre de Dieu? Depuis longtemps, on a un faux concept de ce que c'est être missionnaire, pasteur, prêtre, ou l'appel de Dieu, une vocation, on va dire. Ce n'est pas réservé à ces services-là, ces ministères-là. On est tous, chacun et chacune, appelés quelque part. Si Dieu vous donne une tâche à faire, que ce soit votre vocation, c'est-à-dire votre carrière, ou juste un passe-temps, ou des relations, c'est parce qu'il nous envoie là. Et je crois que c'est très important de voir notre existence en tant que chrétien, en tant que quelqu'un engagé dans la foi, comme une vocation. Ça donne une autorité à ce qu'on fait, ça nous donne une liberté de le faire, parce que Dieu nous donne les capacités, les dons, les talents. On est tous différents. Mais il nous donne ça pour une raison, de pouvoir en profiter, de se réjouir là-dedans, de développer ça, de le nourrir comme une partie de notre appel, de notre vocation dans ce monde. On le fait autrement. On le fait avec donc joie, liberté. On le fait avec plus de responsabilité. Quel que soit notre âge, Dieu nous met dans... Si Dieu nous a mis là, ça c'est une vocation. Et on le fait avec cœur. Nourrir cette notion de vocation. Et puis, troisième et dernière chose, c'est donc sa relation avec Dieu, un sens de vocation dans sa vie, et puis ses actes de foi, c'est-à-dire des actes d'obéissance à Dieu, à sa parole. On a lu le texte où il y a des gens... Dieu leur dit, vous êtes là, je vous ai déporté déjà. Dieu prend la responsabilité pour ça, là. Il dit, il y a des prophètes qui vous disent, tenez, dans deux ans, vous allez revenir au pays. Et Dieu dit par Jérémie, non, c'est faux, 70 ans. Alors installez-vous, achetez des champs, des maisons, faites des enfants, profitez. Et il y a une autre histoire en Jérémie 32 où prisonnier dans la ville assiégée, Jérémie savait que la ville allait bientôt tomber et le peuple sera emmené en exil. Et sous la direction de Dieu, il achète un champ. Parce que Dieu lui dit, on va encore louer Dieu dans ce lieu. Donc il investe. C'était des actes de foi. Des actes d'obéissance. Ça peut être des choses, des petites choses, mais ça peut être des questions importantes aussi. Des actes où on exprime notre confiance. On le montre pratiquement au Seigneur. Est-ce que vous avez des actes de foi à faire? Pensez-y. Et faisons-le avec joie, avec cœur, sachant que Dieu nous appelle, il nous envoie. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour tout ce que nous apprenons. Nous savons qu'après quelques années, on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Mais, et pourtant, par ton esprit, tu nous parles. Tu nous révèles des choses. Tu rends nouvelle la parole pour nous. Et que ce soit le cas pour nous aujourd'hui, qu'on puisse être renouvelé dans cette espérance que nous avons en toi. Pour l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.